Sodome et Gomorre, deuxième partie, chapitre 2, suite 2. Un jour, devant le grand autel où nous étions réunis sur la digue, je venais d'adresser à Albertine les paroles les plus dures et les plus humiliantes. Et Rosemonde disait « Ah, ce que vous êtes changé tout de même pour elle. Autrefois, il n'y en avait que pour elle. C'était elle qui tenait la corde. Maintenant, elle n'est plus bonne à donner à manger aux chiens. » J'étais en train, pour faire ressortir davantage encore mon attitude à l'égard d'Albertine, d'adresser toutes les amabilités possibles à André, qui, si elle était atteinte du même vice, me semblait plus excusable parce qu'elle était souffrante et neurasthénique. Quand nous vîmes déboucher au petit trot de ces deux chevaux, dans la rue perpendiculaire à la digue, à l'angle de laquelle nous nous tenions, la calèche de Madame de Cambremer. Le premier président, qui, à ce moment, s'avançait vers nous, s'écarta d'un bond quand il reconnut la voiture, pour ne pas être vu dans notre société. Puis, quand il pensa que les regards de la marquise allaient pouvoir croiser les siens, s'inclina en lançant un immense coup de chapeau. Mais la voiture, au lieu de continuer, comme il semblait probable, par la rue de la mer, disparut derrière l'entrée de l'hôtel. Il y avait bien 10 minutes de cela, lorsque le lift, tout essoufflé, vint me prévenir. « C'est la marquise de Camembert qui vient ici pour voir monsieur. Je suis montée à la chambre, j'ai cherché au salon de lecture, je ne pouvais pas trouver monsieur. Heureusement que j'ai eu l'idée de regarder sur la plage. » Il finissait à peine son récit que, suivi de sa belle-fille et d'un monsieur très cérémonieux, s'avança vers moi la marquise, arrivant probablement d'une matinée ou d'un thé dans le voisinage, et toute voûtée sous le poids moins de la vieillesse que de la foule d'objets de luxe dont elle croyait plus aimable et plus digne de son rang d'être recouverte, afin de paraître le plus habillée possible aux gens qu'elle venait voir. C'était, en somme, à l'hôtel, ce débarquage des Cambremer que ma grand-mère redoutait si fort autrefois, quand elle voulait qu'on laissât ignorer à Le Grandin que nous irions peut-être à Balbec. Alors, maman riait des craintes inspirées par un événement qu'elle jugeait impossible. Voici qu'enfin, il se produisait pourtant, mais par d'autres voies, et sans que Le Grandin fût pour quelque chose. « Est-ce que je peux rester, si je ne vous dérange pas ?» me demanda Albertine, dans les yeux de qui restaient, amenés par les choses cruelles que je venais de lui dire, quelques larmes que je remarquais sans paraître les voir, mais non sans en être réjoui. « J'aurais quelque chose à vous dire. » Un chapeau à plumes, surmonté lui-même d'une épingle de saphir, était posé n'importe comment sur la perruque de Madame de Cambremer, comme un insigne dont l'exhibition est nécessaire, mais suffisante. La place indifférente, l'élégance conventionnelle et l'immobilité inutile. Malgré la chaleur, la bonne dame avait revêtu un mantelet de jais, pareil à une dalmatique, par-dessus lequel pendait une étole d'hermine, dont le port semblait en relation, non avec la température et la saison, mais avec le caractère de la cérémonie. Et sur la poitrine de Madame de Cambremer, un tortille de baronne relié à une chaînette pendait à la façon d'une croix pectorale. Le monsieur était un célèbre avocat de Paris, de famille nobiliaire, qui était venu passer 3 jours chez les Cambremer. C'était un de ces hommes à qui leur expérience professionnelle, consommée, fait un peu mépriser leur profession et qui disent par exemple « Je sais que je plaide bien, aussi cela ne m'amuse plus de plaider. » Ou « Cela ne m'intéresse plus d'opérer, je sais que j'opère bien. » Intelligent, artiste, ils voient autour de leur maturité, fortement rentré par le succès, brillait cette intelligence, cette nature d'artiste que leurs confrères leur reconnaissent et qui leur confèrent un à peu près de goût et de discernement. Ils se prennent de passion pour la peinture, non d'un grand artiste, mais d'un artiste cependant très distingué. Et à l'achat des œuvres duquel ils emploient les gros revenus que leur procure leur carrière. Le Sidanais était l'artiste élu par l'ami des Cambremer, lequel était du reste très agréable. Il parlait bien des livres, mais non de ceux des vrais maîtres, de ceux qui se sont maîtrisés. Le seul défaut gênant qu'offrit cet amateur était qu'il employait certaines expressions toutes faites d'une façon constante, par exemple « en majeure partie », ce qui donnait à ce dont il voulait parler quelque chose d'important et d'incomplet. « Madame de Cambremer avait profité, me dit-elle, d'une matinée que des amis à elle avaient donnée ce jour-là à côté de Balbec pour venir me voir, comme elle l'avait promis à Robert de Saint-Loup. Vous savez qu'il doit bientôt venir passer quelques jours dans le pays? Son oncle Charlus y est en villégiature chez sa belle-sœur, la duchesse de Luxembourg, et monsieur de Saint-Loup profitera de l'occasion pour aller à la fois dire bonjour à sa tante et revoir son ancien régiment, où il est très aimé, très estimé. Nous recevons souvent les officiers qui nous parlent tous de lui avec des éloges infinis. Comme ce serait gentil si vous nous faisiez le plaisir de venir tous les deux à Féterne. » Je lui présentai Albertine et ses amis. Madame de Cambremer nous nomma à sa belle-fille. Celle-ci, qui se montrait glaciale avec les petits nobliaux que le voisinage de Féterne la forçait à fréquenter, si pleine de réserve, de crainte de se compromettre, me tendit au contraire la main avec un sourire rayonnant, mise comme elle était en sûreté et en joie devant un ami de Robert de Saint-Loup, et que celui-ci, gardant plus de finesse mondaine qu'il ne voulait le laisser voir, lui avait dit très lié avec les Guermantes. Telle, au rebours de sa belle-mère, Madame de Cambremer avait-elle deux politesses infiniment différentes. C'est tout au plus la première, sèche, insupportable, qu'elle m'eût concédée si je l'avais connue par son frère le Grandin. Mais pour un ami des Guermantes, elle n'avait pas assez de sourire. La pièce la plus commode de l'hôtel, pour recevoir, était le salon de lecture. Ce lieu jadis si terrible, où maintenant j'entrais 10 fois par jour, ressortant librement, en maître, comme ces fous peu atteints et depuis si longtemps pensionnaires d'un asile que le médecin leur en a confié la clé. Aussi, offris-je à Madame de Cambremer de l'y conduire. Et comme ce salon ne m'inspirait plus de timidité et ne m'offrait plus de charme, parce que le visage des choses change pour nous, comme celui des personnes, c'est sans trouble que je lui fis cette proposition. Mais elle la refusa, préférant rester dehors, et nous nous assîmes en plein air sur la terrasse de l'hôtel. J'y trouvai et recueillis un volume de Madame de Sévigné que maman n'avait pas eu le temps d'emporter dans sa fuite précipitée, quand elle avait appris qu'il arrivait des visites pour moi. Autant que ma grand-mère, elle redoutait ces invasions d'étrangers, et, par peur de ne plus pouvoir s'échapper si elle se laissait cerner, elle se sauvait avec une rapidité qui nous faisait toujours, à mon père et à moi, nous moquer d'elle. Madame de Cambremer tenait à la main, avec la crosse d'une ombrelle, plusieurs sacs brodés, un vide-poche, une bourse en or, d'où pendaient des fils de grenat, et un mouchoir de dentelle. Il me semblait qu'il lui eût été plus commode de les poser sur une chaise, mais je sentais qu'il eût été inconvenant et inutile de lui demander d'abandonner les ornements de sa tournée pastorale et de son sacerdoce mondain. Nous regardions la mer calme où des mouettes éparses flottaient comme des corolles blanches. À cause du niveau de simple médium où nous abaisse la conversation mondaine, et aussi notre désir de plaire, non à l'aide de nos qualités ignorées de nous-mêmes, mais de ce que nous croyons devoir être prisé par ceux qui sont avec nous, je me mis instinctivement à parler à Madame de Cambremer, née le Grandin, de la façon qu'eût pu faire son frère. « Elles ont, dis-je en parlant des mouettes, une immobilité et une blancheur de nymphéa. » Et en effet, elles avaient l'air d'offrir un but inerte aux petits flots qui les ballottaient, au point que ceux-ci, par contraste, semblaient, dans leur poursuite, animés d'une intention, prendre de la vie. La marquise Douairière ne se lassait pas de célébrer la superbe vue de la mer que nous avions à Balbec, et m'enviait, elle qui, de la Raspelière, qu'elle n'habitait du reste pas cette année, ne voyait les flots que de si loin. Elle avait deux singulières habitudes, qui tenaient à la fois à son amour exalté pour les arts, surtout pour la musique, et à son insuffisance dentaire. Chaque fois qu'elle parlait esthétique, ses glandes salivaires, comme celles de certains animaux au moment du rut, entraient dans une phase d'hypersécrétion telle que la bouche édentée de la vieille dame laissait passer, au coin des lèvres légèrement moustachues, quelques gouttes dont ce n'était pas la place. Aussitôt elle les ravalait avec un grand soupir, comme quelqu'un qui reprend sa respiration. Enfin, s'il s'agissait d'une trop grande beauté musicale, dans son enthousiasme elle levait les bras et proférait quelques jugements sommaires, énergiquement mastiqués et au besoin venant du nez. Or, je n'avais jamais songé que la vulgaire plage de Balbec put offrir en effet une vue de mer, et les simples paroles de Madame de Cambremer changeaient mes idées à cet égard. En revanche, et je le lui dis, j'avais toujours entendu célébrer le coup d'œil unique de la Raspelière, situé au faîte de la colline, et où, dans un grand salon à deux cheminées, toute une rangée de fenêtres regarde, au bout des jardins, entre les feuillages, la mer, jusqu'au-delà de Balbec, et l'autre rangée, la vallée. Comme vous êtes aimable, et comme c'est bien dit, la mer entre les feuillages, c'est ravissant, on dirait un éventail. Et je sentis à une respiration profonde, destinée à rattraper la salive et à assécher la moustache, que le compliment était sincère. Mais la marquise, née le Grandin, resta froide pour témoigner de son dédain, non pas pour mes paroles, mais pour celles de sa belle-mère. D'ailleurs, elle ne méprisait pas seulement l'intelligence de celle-ci, mais déplorait son amabilité, craignant toujours que les gens n'eussent pas une idée suffisante des Cambremer. « Et comme le nom est joli, dis-je, on aimerait savoir l'origine de tous ces noms-là. » « Pour celui-là, je peux vous le dire, » me répondit avec douceur la vieille dame. « C'est une demeure de famille, de ma grand-mère Arrachepelle. Ce n'est pas une famille illustre, mais c'est une bonne et très ancienne famille de province. » « Comment, pas illustre ? » interrompit sèchement sa belle-fille. « Tout un vitrail de la cathédrale de Bayeux est rempli par ses armes, et la principale église d'Avranches contient leurs monuments funéraires. « Si ces vieux noms vous amusent, » ajouta-t-elle, « vous venez un an trop tard. Nous avions fait nommer à la cure de Criquetot, malgré toutes les difficultés qu'il y a à changer de diocèse, le doyen d'un pays où j'ai personnellement des terres, fort loin d'ici, à Combray, où le bon prêtre se sentait devenir neurasthénique. Malheureusement, l'air de la mer n'a pas réussi à son grand âge. Sa neurasthénie s'est augmentée et il est retourné à Combray. Mais il s'est amusé, pendant qu'il était notre voisin, à aller consulter toutes les vieilles chartes. Et il a fait une petite brochure assez curieuse sur les noms de la région. Cela l'a d'ailleurs mis en goût, car il paraît qu'il occupe ces dernières années à écrire un grand ouvrage sur Combray et ses environs. Je vais vous envoyer sa brochure sur les environs de Féterne. C'est un vrai travail de bénédictin. Vous y lirez des choses très intéressantes sur notre vieille Raspelière, dont ma belle-mère parle beaucoup trop modestement. En tout cas, cette année, répondit madame de Cambremer douairière, la Raspelière n'est plus nôtre et ne m'appartient plus. Mais on sent que vous avez une nature de peintre, vous devriez dessiner, et j'aimerais tant vous montrer Féterne, qui est bien mieux que la Raspelière. Car depuis que les Cambremer avaient loué cette dernière demeure au Verdurin, sa position dominante avait brusquement cessé de leur apparaître ce qu'elle avait été pour eux pendant des années, c'est-à-dire donnant l'avantage, unique dans le pays, d'avoir vu à la fois sur la mer et sur la vallée, et en revanche leur avait présenté tout à coup et après coup l'inconvénient qu'il fallait toujours monter et descendre pour y arriver et en sortir. Bref, on eût cru que si madame de Cambremer l'avait loué, c'était moins pour accroître ses revenus que pour reposer ses chevaux. Et elle se disait ravie de pouvoir enfin posséder tout le temps la mère de si près à Féterne, elle qui, pendant si longtemps, oubliant les 2 mois qu'elle y passait, ne l'avait vue que d'en haut et comme dans un panorama. « Je la découvre à mon âge, disait-elle, et comme j'en jouis, ça me fait un bien. Je louerais la Raspelière pour rien afin d'être contrainte d'habiter Féterne. » Pour revenir à des sujets plus intéressants, reprit la sœur de Legrandin qui disait « Ma mère » à la vieille marquise, mais avec les années avait pris des façons insolentes avec elle. « Vous parliez des nymphéas. Je pense que vous connaissez ceux que Claude Monet a peints. Quel génie! Cela m'intéresse d'autant plus qu'auprès de Combray, cet endroit où je vous ai dit que j'avais des terres... » Mais elle préféra ne pas trop parler de Combray. Ah, c'est sûrement la série dont nous a parlé Elstir, le plus grand des peintres contemporains, s'écria Albertine, qui n'avait rien dit jusque-là. Ah, on voit que mademoiselle aime les arts, s'écria madame de Cambremer, qui, en poussant une respiration profonde, résorba un jet de salive. Vous me permettrez de lui préférer le Sidanais, mademoiselle, dit l'avocat en souriant d'un air connaisseur. Et comme il avait goûté, ou vu goûter, autrefois certaines audaces d'Elstir, il ajouta « Elstir était doué, il a même fait presque partie de l'avant-garde, mais je ne sais pas pourquoi il a cessé de suivre, il a gâché sa vie. » Madame de Cambremer donna raison à l'avocat en ce qui concernait Elstir, mais, au grand chagrin de son invité, égala Monet à le Sidanais. On ne peut pas dire qu'elle fut bête. Elle débordait d'une intelligence que je sentais m'être entièrement inutile. Justement, le soleil s'abaissant, les mouettes étaient maintenant jaunes, comme les nymphéas dans une autre toile de cette même série de Monet. Je dis que je la connaissais, et, continuant à imiter le langage du frère dont je n'avais pas encore osé citer le nom, j'ajoutai qu'il était malheureux qu'elle n'eût pas eu plus tôt l'idée de venir la veille, car à la même heure, c'est une lumière de poussin qu'elle eût pu admirer. Devant un hobereau normand inconnu des Guermantes, et qui lui eût dit qu'elle eût dû venir la veille, madame de Cambremer le Grandin se fut sans doute redressée d'un air offensé. Mais j'aurais pu être bien plus familière encore qu'elle n'eût été que douceur moelleuse et florissante. Je pouvais, dans la chaleur de cette belle fin d'après-midi, butiner à mon gré dans le gros gâteau de miel que madame de Cambremer était si rarement et qui remplaça les petits fours que je n'eus pas l'idée d'offrir. Mais le nom de Poussin, sans altérer l'aménité de la femme du monde, souleva les protestations de la dilettante. En entendant ce nom, à 6 reprises que ne séparait presque aucun intervalle, Elle eut ce petit claquement de la langue contre les lèvres, qui sert à signifier à un enfant qui est en train de faire une bêtise, à la fois un blâme d'avoir commencé et l'interdiction de poursuivre. Au nom du ciel, après un peintre comme Monet, qui est tout bonnement un génie, n'allez pas nommer un vieux poncif sans talent comme Poussin. Je vous dirai tout nûment que je le trouve le plus barbifiant des raseurs. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pourtant pas appeler cela de la peinture. Monet, Degas, Manet, oui, voilà des peintres. C'est très curieux, ajouta-t-elle en fixant un regard scrutateur et ravi sur un point vague de l'espace où elle apercevait sa propre pensée. C'est très curieux. Autrefois, je préférais Manet. Maintenant, j'admire toujours Manet, c'est entendu, mais je crois que je lui préfère peut-être encore Monet. Ah, les cathédrales! Elle mettait autant de scrupules que de complaisance à me renseigner sur l'évolution qu'avait suivi son goût. Et on sentait que les phases par lesquelles avait passé ce goût n'étaient pas, selon elle, moins importantes que les différentes manières de Monet lui-même. Je n'avais pas du reste à être flattée qu'elle me fît confidence de ses admirations, car, même devant la provinciale la plus bornée, elle ne pouvait pas rester 5 minutes sans éprouver le besoin de les confesser. Quand une dame noble d'Avranches, laquelle n'eût pas été capable de distinguer Mozart de Wagner, disait devant Madame de Cambremer « Nous n'avons pas eu de nouveautés intéressantes pendant notre séjour à Paris. Nous avons été une fois à l'Opéra Comique. On donnait Péléas et Mélisande. C'est affreux !» Madame de Cambremer non seulement bouillait, mais éprouvait le besoin de s'écrier « Mais au contraire, c'est un petit chef-d'œuvre !» et de discuter. C'était peut-être une habitude de Combray, prise auprès des sœurs de ma grand-mère qui appelait cela « combattre pour la bonne cause » et qui aimait les dîners où elles savaient, toutes les semaines, qu'elles auraient à défendre leur dieu contre des philistins. Telle Madame de Cambremer aimait à se fouetter le sang en se chamaillant sur l'art, comme d'autres sur la politique. Elle prenait le parti de Debussy, comme elle aurait fait celui d'une de ses amies, dont on eût incriminé la conduite. Elle devait pourtant bien comprendre qu'en disant « Mais non, c'est un petit chef-d'œuvre !» elle ne pouvait pas improviser, chez la personne qu'elle remettait à sa place, toute la progression de culture artistique au terme de laquelle elles fussent tombées d'accord, sans avoir besoin de discuter. « Il faudra que je demande à Lecidané ce qu'il pense de Poussin, » me dit l'avocat. « C'est un renfermé, un silencieux, mais je saurais bien lui tirer les vers du nez. » « Du reste, » continua Madame de Cambremer, « j'ai horreur des couchers de soleil. C'est romantique, c'est opéra. C'est pour cela que je déteste la maison de ma belle-mère avec ses plantes du midi. Vous verrez, ça a l'air d'un parc de Monte-Carlo. C'est pour cela que j'aime mieux votre rive. C'est plus triste, plus sincère. Il y a un petit chemin d'où on ne voit pas la mer. Les jours de pluie, il n'y a que de la boue. C'est tout un monde. C'est comme à Venise. Je déteste le grand canal. Et je ne connais rien de touchant comme les petites ruelles. Du reste, c'est une question d'ambiance. Mais, lui dis-je, sentant que la seule manière de réhabiliter Poussin aux yeux de Madame de Cambremer, c'était d'apprendre à celle-ci qu'il était redevenu à la mode. Monsieur Degas assure qu'il ne connaît rien de plus beau que les Poussins de Chantilly. Ouais, je ne connais pas ceux de Chantilly, me dit Madame de Cambremer, qui ne voulait pas être d'un autre avis que Degas. Mais je peux parler de ceux du Louvre, qui sont des horreurs. Il les admire aussi, énormément. Il faudra que je les revoie. Tout cela est un peu ancien dans ma tête, répondit-elle, après un instant de silence, et comme si le jugement favorable qu'elle allait certainement bientôt porter sur Poussin devait dépendre, non de la nouvelle que je venais de lui communiquer, mais de l'examen supplémentaire, et cette fois définitif, qu'elle comptait faire subir au poussin du Louvre pour avoir la faculté de se déjuger. Me contentant de ce qui était un commencement de rétractation, puisque, si elle n'admirait pas encore les poussins, elle s'ajournait pour une seconde délibération, pour ne pas la laisser plus longtemps à la torture, je dis à sa belle-mère combien on m'avait parlé des fleurs admirables de Féterne. Modestement, elle parla du petit jardin de curé qu'elle avait derrière et où, le matin, en poussant une porte, elle allait, en robe de chambre, donner à manger à ses paons, chercher les œufs pondus et cueillir des ignats ou des roses qui, sur le chemin de table, faisant aux œufs à la crème et aux fritures une bordure de fleurs, lui rappelaient ses allées. « C'est vrai que nous avons beaucoup de roses, » me dit-elle. « Notre roseraie est presque un peu trop près de la maison d'habitation. Il y a des jours où cela me fait mal à la tête. C'est plus agréable de la terrasse de la Raspelière, où le vent apporte l'odeur des roses, mais déjà moins entêtante. » Je me tournai vers la belle-fille. « C'est tout à fait Péléas, » lui dis-je, pour contenter son goût de modernisme. « Cette odeur de rose montant jusqu'aux terrasses, elle est si forte dans la partition que, comme j'ai le hay fever et la rose fever, elle me faisait éternuer chaque fois que j'entendais cette scène. » « Quel chef-d'œuvre que Péléas !» s'écria madame de Cambremer. « J'en suis férue !» Et s'approchant de moi avec les gestes d'une femme sauvage qui aurait voulu me faire des agaceries, s'aidant des doigts pour piquer les notes imaginaires, elle se mit à fredonner quelque chose que je supposais être pour elle les adieux de Péléas, et continua avec une véhémente insistance, comme s'il avait été d'importance, que madame de Cambremer me rappelât en ce moment cette scène, ou peut-être plutôt me montra qu'elle se la rappelait. « Je crois que c'est encore plus beau que Parsifal, » ajouta-t-elle, « parce que dans Parsifal, il s'ajoute aux plus grandes beautés un certain halo de phrases mélodiques, donc caduques puisque mélodiques. » « Je sais que vous êtes une grande musicienne, madame, » dis-je à la douairière. « J'aimerais beaucoup vous entendre. » Madame de Cambremer le Grandin regarda la mère pour ne pas prendre part à la conversation. Considérant que ce qu'aimait sa belle-mère n'était pas de la musique, elle considérait le talent, prétendu selon elle et des plus remarquables en réalité, qu'on lui reconnaissait comme une virtuosité sans intérêt. Il est vrai que la seule élève encore vivante de Chopin déclarait avec raison que la manière de jouer, le sentiment du maître, ne s'était transmis à travers elle qu'à madame de Cambremer. Mais jouer comme Chopin était loin d'être une référence pour la sœur de Legrandin, laquelle ne méprisait personne autant que le musicien polonais. « Oh, elle s'envole !» s'écria Albertine en me montrant les mouettes, qui, se débarrassant pour un instant de leur incognito de fleurs, montaient toutes ensemble vers le soleil. « Leurs ailes de géant les empêchent de marcher, » dit madame de Cambremer, confondant les mouettes avec les albatros. « Je les aime beaucoup, j'en voyais à Amsterdam, » dit Albertine. « Elles sentent la mer, elles viennent la humer, même à travers les pierres des rues. « Ah, vous avez été en Hollande, vous connaissez les Vermeer ?» demanda impérieusement madame de Cambremer, et du ton dont elle aurait dit « Vous connaissez les Guermantes ?» Car le snobisme, en changeant d'objet, ne change pas d'accent. Albertine répondit non. Elle croyait que c'était des gens vivants. Mais il n'y parut pas. « Je serais très heureuse de vous faire de la musique, » me dit madame de Cambremer. « Mais vous savez, je ne joue que des choses qui n'intéressent plus votre génération. J'ai été élevée dans le culte de Chopin, » dit-elle à voix basse, « car elle redoutait sa belle-fille et savait que celle-ci, considérant que Chopin n'était pas de la musique, le bien joué ou le mal joué étaient des expressions dénuées de sens. Elle reconnaissait que sa belle-mère avait du mécanisme, perlait les traits. « Jamais on ne me fera dire qu'elle est musicienne !» concluait madame de Cambremer-le-Grandin. Parce qu'elle se croyait avancée et, en art seulement, jamais assez à gauche, disait-elle. Elle se représentait non seulement que la musique progresse, mais sur une seule ligne, et que Debussy était en quelque sorte un sur-Wagner, encore un peu plus avancé que Wagner. Elle ne se rendait pas compte que si Debussy n'était pas aussi indépendant de Wagner qu'elle-même devait le croire dans quelques années, parce qu'on se sert tout de même des armes conquises pour achever de s'affranchir de celui qu'on a momentanément vaincu, il cherchait cependant, après la satiété qu'on commençait à avoir des œuvres trop complètes où tout est exprimé, à contenter un besoin contraire. Des théories, bien entendu, étayaient momentanément cette réaction, pareilles à celles qui, en politique, viennent à l'appui des lois contre les congrégations, des guerres en Orient, enseignements contre nature, périls jaunes, etc., etc. On disait qu'à une époque de hâte convenait un art rapide, absolument comme on aurait dit que la guerre future ne pouvait pas durer plus de 15 jours, ou qu'avec les chemins de fer seraient délaissés les petits coins chers aux diligences et que l'auto pourtant devait remettre en honneur. On recommandait de ne pas fatiguer l'attention de l'auditeur, comme si nous ne disposions pas d'attention différente dont il dépend précisément de l'artiste d'éveiller les plus hautes. Car ceux qui bâillent de fatigue après 10 lignes d'un article médiocre avaient refait tous les ans le voyage de Bayreuth pour entendre la tétralogie. D'ailleurs, le jour devait venir où, pour un temps, Debussy serait déclaré aussi fragile que Massenet, et les très hautements de Mélisandre abaissés au rang de ceux de Manon. Car les théories et les écoles, comme les microbes et les globules, s'entre-dévorent et assurent, par leur lutte, la continuité de la vie. Mais ce temps n'était pas encore venu. Comme à la bourse, quand un mouvement de hausse se produit, tout un compartiment de valeurs en profite. Un certain nombre d'auteurs dédaignés bénéficiaient de la réaction, soit parce qu'ils ne méritaient pas ce dédain, soit simplement, ce qui permettait de dire une nouveauté en les prenant, parce qu'ils l'avaient encouru. Et on allait même chercher, dans un passé isolé, quelques talents indépendants sur la réputation de qui ne semblait pas devoir influer le mouvement actuel, mais dont un des maîtres nouveaux passait pour citer le nom avec faveur. Souvent, c'était parce qu'un maître, quel qu'il soit, si exclusive que doivent être son école, juge d'après son sentiment original, rend justice au talent partout où il se trouve, et même moins qu'au talent, à quelque agréable inspiration qu'il a goûté autrefois, qui se rattache à un moment aimé de son adolescence. D'autres fois, parce que certains artistes d'une autre époque ont, dans un simple morceau, réalisé quelque chose qui ressemble à ce que le maître peu à peu s'est rendu compte que lui-même avait voulu faire. Alors, il voit en cet ancien comme un précurseur. Il aime chez lui, sous une toute autre forme, un effort momentanément, partiellement fraternel. Il y a des morceaux de Turner dans l'œuvre de Poussin, une phrase de Flaubert dans Montesquieu, et quelquefois aussi ce bruit de la prédilection du maître était le résultat d'une erreur, née on ne sait où et colportée dans l'école. Mais le nom cité bénéficiait alors de la firme sous la protection de laquelle il était entré juste à temps. Car s'il y a quelque liberté, un goût vrai, dans le choix du maître, les écoles, elles, ne se dirigent plus que suivant la théorie. C'est ainsi que l'esprit, suivant son cours habituel qui s'avance par digression, en obliquant une fois dans un sens, la fois suivante dans le sens contraire, avait ramené la lumière d'en haut sur un certain nombre d'œuvres auxquelles le besoin de justice ou de renouvellement, ou le goût de Debussy, ou son caprice, ou quelques propos qu'il n'avait peut-être pas tenus, avait ajouté celle de Chopin. Prôné par les juges en qui on avait toute confiance, bénéficiant de l'admiration qu'excitait Péléas, elles avaient retrouvé un éclat nouveau, et ceux même qui ne les avaient pas réentendues étaient si désireux de les aimer qu'ils le faisaient malgré eux, quoique avec l'illusion de la liberté. Mais Madame de Cambremer le Grandin restait une partie de l'année en province. Même à Paris, malade, elle vivait beaucoup dans sa chambre. Il est vrai que l'inconvénient pouvait surtout s'en faire sentir dans le choix des expressions que Madame de Cambremer croyait à la mode et qui eussent convenu plutôt au langage écrit. Nuance qu'elle ne discernait pas, car elle les tenait plus de la lecture que de la conversation. Celle-ci n'est pas aussi nécessaire pour la connaissance exacte des opinions que des expressions nouvelles. Pourtant, ce rajeunissement des « nocturnes » n'avait pas encore été annoncé par la critique. La nouvelle s'en était transmise seulement par des causeries de jeunes. Il restait ignoré de Madame de Cambremer le Grandin. Je me fis un plaisir de lui apprendre, mais en m'adressant pour cela à sa belle-mère. Comme quand, au billard, pour atteindre une boule, on joue par la bande. Que Chopin, bien loin d'être démodé, était le musicien préféré de Debussy. « Tiens, c'est amusant !» me dit en souriant finement la belle-fille, comme si ce n'avait été là qu'un paradoxe lancé par l'auteur de Péléas. Néanmoins, il était bien certain maintenant qu'elle n'écouterait plus Chopin qu'avec respect, et même avec plaisir. Aussi mes paroles, qui venaient de sonner l'heure de la délivrance pour la douairière, mirent-elles dans sa figure une expression de gratitude pour moi, et surtout de joie. Ses yeux brillèrent comme ceux de Latude dans la pièce appelée « Latude » ou « 35 ans de captivité ». Et sa poitrine huma l'air de la mer avec cette dilatation que Beethoven a si bien marquée dans Fidelio, quand ses prisonniers respirent enfin cet air qui vivifie. Quant à la douairière, je crus qu'elle allait poser sur ma joue ses lèvres moustachues. « Comment, vous aimez Chopin ? Il aime Chopin ! Il aime Chopin !» s'écria-t-elle dans un nasonnement passionné. Elle aurait dit « Comment, vous connaissez aussi Madame de Franquetot ?» avec cette différence que mes relations avec Madame de Franquetot lui eussent été profondément indifférentes, tandis que ma connaissance de Chopin la jeta dans une sorte de délire artistique. L'hypersécrétion salivaire ne suffit plus. N'ayant même pas essayé de comprendre le rôle de Debussy dans la réinvention de Chopin, elle sentit seulement que mon jugement était favorable. L'enthousiasme musical la saisit. « Élodie ! Élodie ! Il aime Chopin !» Ses seins se soulevèrent et elle battit l'air de ses bras. « Ah ! J'avais bien senti que vous étiez musicien !» s'écria-t-elle. « Je comprends, artiste comme vous êtes, que vous aimiez cela. C'est si beau !» Et sa voix était aussi caillouteuse que si, pour m'exprimer son ardeur pour Chopin, elle eût, imitant Démosthène, rempli sa bouche avec tous les galets de la plage. Enfin le reflux vint, atteignant jusqu'à la voilette qu'elle n'eut pas le temps de mettre à l'abri et qui fut transpercée. Enfin, la marquise essuya avec son mouchoir brodé la bave d'écume dont le souvenir de Chopin venait de tremper ses moustaches. « Mon Dieu !» me dit Madame de Cambremer le Grandin. « Je crois que ma belle-mère s'attarde un peu trop. Elle oublie que nous avons à dîner mon oncle de Chenouville. Et puis, Cancan n'aime pas attendre. » Cancan me resta incompréhensible, et je pensais qu'il s'agissait peut-être d'un chien. Mais pour les cousins de Schnouville, voilà. Avec l'âge, s'était amorti chez la jeune marquise le plaisir qu'elle avait à prononcer leur nom de cette manière. Et cependant, c'était pour le goûter qu'elle avait jadis décidé son mariage. Dans d'autres groupes mondains, quand on parlait des Schnouville, l'habitude était, du moins chaque fois que la particule était précédée d'un nom finissant par une voyelle, car dans le cas contraire, on était bien obligé de prendre appui sur le « de », la langue se refusant à prononcer « Madame de Schnonceau ». Que ce fut le muet de la particule qu'on sacrifia. On disait « Monsieur de Schnouville ». Chez les Cambremers, la tradition était inverse, mais aussi impérieuse. C'était le muet de Schnouville que, dans tous les cas, on supprimait. Que le nom fût précédé de mon cousin ou de ma cousine, c'était toujours de Schnouville, et jamais de Schnouville. Pour le père de ces Schnouville, on disait notre oncle, car on n'était pas assez gratin à Féterne pour prononcer notre oncle, comme eussent fait les Guermantes, dont le baragouin voulu, supprimant les consonnes et nationalisant les noms étrangers, était aussi difficile à comprendre que le vieux français ou un moderne patois. Toute personne qui entrait dans la famille recevait aussitôt, sur ce point des Schnouville, un avertissement dont Mademoiselle Legrandin Cambremer n'avait pas eu besoin. Un jour, en visite, entendant une jeune fille dire « Ma tante d'Uzet, mon oncle de Rouen », elle n'avait pas reconnu immédiatement les noms illustres qu'elle avait l'habitude de prononcer, Uzès et Rouen. Elle avait eu l'étonnement, l'embarras et la honte de quelqu'un qui a devant lui à table un instrument nouvellement inventé dont il ne sait pas l'usage et dont il n'ose pas commencer à manger. Mais la nuit suivante et le lendemain, elle avait répété avec ravissement « Ma tante d'Uzet ». Avec cette suppression de l'S finale, suppression qui l'avait stupéfaite la veille, mais qui lui semblait maintenant si vulgaire de ne pas connaître, qu'une de ses amies lui ayant parlé d'un buste de la duchesse d'Uzès, Mademoiselle Legrandin lui avait répondu avec mauvaise humeur et d'un ton hautain « Vous pourriez au moins prononcer comme il faut, Mame d'Uzet !» Dès lors, elle avait compris qu'en vertu de la transmutation des matières consistantes en éléments de plus en plus subtils, la fortune considérable et si honorablement acquise qu'elle tenait de son père, l'éducation complète qu'elle avait reçue, son assiduité à la Sorbonne, tant aux cours de carreau qu'à ceux de brunetière, et aux concerts l'amoureux, tout cela devait se volatiliser, trouver sa sublimation dernière dans le plaisir de dire un jour « Ma tante d'Uzet ». Il n'excluait pas de son esprit qu'elle continuerait à fréquenter, au moins dans les premiers temps qui suivraient son mariage, non pas certaines amies qu'elle aimait et qu'elle était résignée à sacrifier, mais certaines autres qu'elle n'aimait pas et à qui elle voulait pouvoir dire, puisqu'elle se marierait pour cela, « Je vais vous présenter à ma tante d'Uzet. » Et quand elle vit que cette alliance était trop difficile, « Je vais vous présenter à ma tante de Schnouville. » Et « Je vous ferai dîner avec les Uzet. » Son mariage avec monsieur de Cambremer avait procuré à Mademoiselle Legrandin l'occasion de dire la première de ses phrases, mais non la seconde. Le monde que fréquentaient ses beaux-parents n'étant pas celui qu'elle avait cru et duquel elle continuait à rêver. Aussi, après m'avoir dit de Saint-Loup, en adoptant pour cela une expression de Robert, car si pour causer j'employais avec elle ces expressions de Legrandin, par une suggestion inverse, elle me répondait dans le dialecte de Robert, qu'elle ne savait pas emprunter à Rachel. En rapprochant le pouce de l'index et en fermant à demi les yeux, comme si elle regardait quelque chose d'infiniment délicat qu'elle était parvenue à capter. « Il a une jolie qualité d'esprit. » elle fit son éloge avec tant de chaleur qu'on aurait pu croire qu'elle était amoureuse de lui. On avait d'ailleurs prétendu qu'autrefois, quand il était à Doncières, Robert avait été son amant. En réalité, simplement pour que je le lui répétasse et pour aboutir à « Vous êtes très liée avec la duchesse de Guermantes. Je suis souffrante, je ne sors guère. Et je sais qu'elle reste confinée dans un cercle d'amis choisis, ce que je trouve très bien. Aussi, je la connais très peu. Mais je sais que c'est une femme absolument supérieure. » Sachant que Madame de Cambremer la connaissait à peine, et pour me faire aussi petit qu'elle, je glissai sur ce sujet et répondis à la marquise que j'avais connu surtout son frère, Monsieur le Grandin. À ce nom, elle prit le même air évasif que j'avais eu pour Madame de Guermantes, mais en y joignant une expression de mécontentement, car elle pensa que j'avais dit cela pour humilier, non pas moi, mais elle. Était-elle rongée par le désespoir d'être née le Grandin? C'est du moins ce que prétendaient les sœurs et belles-sœurs de son mari. Dame noble de province, qui ne connaissait personne et ne savait rien, jalousait l'intelligence de Madame de Cambremer, son instruction, sa fortune, les agréments physiques qu'elle avait eus avant de tomber malade. Elle ne pense pas à autre chose, c'est cela qui la tue, disaient ces méchantes dès qu'elles parlaient de Madame de Cambremer, à n'importe qui, mais de préférence à un roturier. Soit, s'il était fat et stupide, pour donner plus de valeur, par cette affirmation de ce cas de honte la roture, à l'amabilité qu'elle marquait pour lui, soit, s'il était timide et fin, et s'appliquait le propos à soi-même, pour avoir le plaisir, tout en le recevant bien, de lui faire indirectement une insolence. Mais si ces dames croyaient dire vrai pour leur belle-sœur, elles se trompaient. Celle-ci souffrait d'autant moins d'être née le Grandin qu'elle en avait perdu le souvenir. Elle fut froissée que je le lui rendisse et se tut comme si elle n'avait pas compris, ne jugeant pas nécessaire d'apporter une précision ni même une confirmation au mien. Nos parents ne sont pas la principale cause de l'écourtement de notre visite, me dit Madame de Cambremer-Douairière, qui était probablement plus blasée que sa belle-fille sur le plaisir qu'il y a à dire « Schnouville ». Mais, pour ne pas vous fatiguer de trop de monde, monsieur, dit-elle en montrant l'avocat, n'a pas osé faire venir jusqu'ici sa femme et son fils. Ils se promènent sur la plage en nous attendant, et doivent commencer à s'ennuyer. » Je me les fis désigner exactement et courus les chercher. La femme avait une figure ronde, comme certaines fleurs de la famille des renonculacées, et au coin de l'œil, un assez large signe végétal. Et les générations des hommes, gardant leur caractère comme une famille de plantes, de même que sur la figure flétrie de la mère, le même signe, qui eût pu aider au classement d'une variété, se gonflait sous l'œil du fils. Mon empressement auprès de sa femme et de son fils toucha l'avocat. Il montra de l'intérêt au sujet de mon séjour à Balbec. « Vous devez vous trouver un peu dépaysé, car il y a ici, en majeure partie, des étrangers. » Et il me regardait tout en me parlant, car n'aimant pas les étrangers, bien que beaucoup fussent de ses clients, il voulait s'assurer que je n'étais pas hostile à sa xénophobie, auquel cas il eût battu en retraite en disant « Naturellement, Madame X peut être une femme charmante, c'est une question de principe. » Comme je n'avais à cette époque aucune opinion sur les étrangers, je ne témoignais pas de désapprobation. Il se sentit en terrain sûr. Il alla jusqu'à me demander de venir un jour chez lui, à Paris, voir sa collection de Le Sidané, et d'entraîner avec moi les Cambremer, avec lesquels il me croyait évidemment intime. « Je vous inviterai avec Le Sidané, » me dit-il, persuadé que je ne vivrai plus que dans l'attente de ce jour béni. « Vous verrez quel homme exquis, et ses tableaux vous enchanteront. » Bien entendu, je ne puis pas rivaliser avec les grands collectionneurs, mais je crois que c'est moi qui ai le plus grand nombre de ces toiles préférées. Cela vous intéressera d'autant plus, venant de Balbec, que ce sont des marines, du moins en majeure partie. La femme et le fils, pourvus du caractère végétal, écoutaient avec recueillement. On sentait qu'à Paris, leur hôtel était une sorte de temple du Lucidané. Ces sortes de temples ne sont pas inutiles. Quand le dieu a des doutes sur lui-même, il bouche aisément les fissures de son opinion sur lui-même par les témoignages irrécusables d'êtres qui ont voué leur vie à son œuvre. Sur un signe de sa belle-fille, Madame de Cambremer allait se lever et me disait « Puisque vous ne voulez pas vous installer à Féterne, ne voulez-vous pas au moins venir déjeuner un jour de la semaine ? Demain, par exemple ?» Et dans sa bienveillance, pour me décider, elle ajouta « Vous retrouverez le comte de Crisenois, que je n'avais nullement perdu, pour la raison que je ne le connaissais pas. » Elle commençait à faire luire à mes yeux d'autres tentations encore, mais elle s'arrêta net. Le premier président, qui, en rentrant, avait appris qu'elle était à l'hôtel, l'avait sournoisement cherchée partout. Attendu ensuite, et feignant de la rencontrer par hasard, il vint lui présenter ses hommages. Je compris que Madame de Cambremer ne tenait pas à étendre à lui l'invitation à déjeuner qu'elle venait de m'adresser. Il la connaissait pourtant depuis bien plus longtemps que moi, étant depuis des années un de ses habitués des matinées de Féterne, que j'enviais tant durant mon premier séjour à Balbec. Mais l'ancienneté ne fait pas tout pour les gens du monde, et ils réservent plus volontiers les déjeuners aux relations nouvelles qui piquent encore leur curiosité, surtout quand elles arrivent précédées d'une mystérieuse et chaude recommandation comme celle de Saint-Loup. Madame de Cambremer supputa que le premier président n'avait pas entendu ce qu'elle m'avait dit, mais pour calmer les remords qu'elle éprouvait, elle lui tint les plus aimables propos. Dans l'ensoleillement qui noyait à l'horizon la côte dorée, habituellement invisible, de Rivebelle, nous discernâmes, à peine séparés du lumineux azur, sortant des eaux, roses, argentines, imperceptibles, les petites cloches de l'Angélus qui sonnaient aux environs de Féterne. « Ceci est encore assez Péléas, » fis-je remarquer à Madame de Cambremer le Grandin. « Vous savez la scène que je veux dire ?»« Je crois bien que je sais. » »« Mais je ne sais pas du tout, » était proclamé par sa voix et son visage, qui ne se moulait à aucun souvenir, et par son sourire sans appui. En l'air. La douairière ne revenait pas de ce que les cloches portassent jusqu'ici et se leva en pensant à l'heure. « Mais en effet, dis-je, d'habitude, de Balbec, on ne voit pas cette côte et on ne l'entend pas non plus. Il faut que le temps ait changé et ait doublement élargi l'horizon. À moins qu'elles ne viennent vous chercher, puisque je vois qu'elles vous font partir. » Elles sont pour vous la cloche du dîner. » Le premier président, peu sensible aux cloches, regardait furtivement la digue qu'il se désolait de voir ce soir aussi dépeuplée. « Vous êtes un vrai poète, » me dit Madame de Cambremer. « On vous sent si vibrant, si artiste. Venez, je vous jouerai du Chopin. » ajouta-t-elle en levant les bras d'un air extasié, et en prononçant les mots d'une voix rauque qui avait l'air de déplacer des galets. Puis vint la déglutition de la salive, et la vieille dame essuya instinctivement la légère brosse, dite à l'américaine, de sa moustache avec son mouchoir. Le premier président me rendit, sans le vouloir, un très grand service en empoignant la marquise par le bras pour la conduire à sa voiture. Une certaine dose de vulgarité, de hardiesse et de goût pour l'ostentation, dictant une conduite que d'autres hésiteraient à assurer, et qui est loin de déplaire dans le monde. et il en avait d'ailleurs, depuis tant d'années, bien plus l'habitude que moi. Tout en le bénissant, je n'osais l'imiter et marchais à côté de Madame de Cambremer-le-Grandin, laquelle voulut voir le livre que je tenais à la main. Le nom de Madame de Sévigné lui fit faire la moue, et, usant d'un mot qu'elle avait lu dans certains journaux, mais qui, parlé et mis au féminin, et appliqué à un écrivain du XVIIe siècle, faisait un effet bizarre, elle me demanda « La trouvez-vous vraiment talentueuse ?» La marquise donna au valet de pied l'adresse d'un pâtissier où elle avait à s'en aller avant de repartir sur la route. Rose de la poussière du soir, où bleuissaient en forme de croupe les falaises échelonnées. Elle demanda à son vieux cocher si un de ses chevaux, qui était frileux, avait eu assez chaud, si le sabot de l'autre ne lui faisait pas mal. « Je vous écrirai pour ce que nous devons convenir, » me dit-elle à mi-voix. « J'ai vu que vous causiez littérature avec ma belle-fille. Elle est adorable. » ajouta-t-elle, bien qu'elle ne le pensât pas, mais elle avait pris l'habitude, gardée par bonté, de le dire pour que son fils n'eût pas l'air d'avoir fait un mariage d'argent. « Et puis, » ajouta-t-elle dans un dernier mâchonnement enthousiaste, « elle est si artiste !» Puis elle monta en voiture, balançant la tête, levant la crosse de son ombrelle, et repartit par les rues de Balbec, surchargée des ornements de son sacerdoce, comme un vieil évêque en tournée de confirmation. « Elle vous a invité à déjeuner ?» me dit sévèrement le premier président quand la voiture se fut éloignée et que je rentrais avec mes amis. « Nous sommes en froid. Elle trouve que je la néglige. Dame, je suis facile à vivre. Qu'on ait besoin de moi, je suis toujours là pour répondre, présent. Mais ils ont voulu jeter le grappin sur moi. Alors, cela, » ajouta-t-il d'un air fin et en levant le doigt comme quelqu'un qui distingue et argumente. « Je ne permets pas ça. C'est attenter à la liberté de mes vacances. J'ai été obligé de dire « Halte là !»« Vous paraissez fort bien avec elle. Quand vous aurez mon âge, vous verrez que c'est bien peu de choses, le monde, et vous regretterez d'avoir attaché tant d'importance à ces riens. Allons, je vais faire un tour avant dîner. Adieu, les enfants » cria-t-il à la cantonade, comme s'il était déjà éloigné de 50 pas. Quand j'eus dit au revoir à Rosemonde et à Gisèle, elles virent avec étonnement Albertine arrêtée qui ne les suivait pas. « Eh bien, Albertine, qu'est-ce que tu fais? Tu sais l'heure ?»« Rentrez !» leur répondit-elle avec autorité. « J'ai à causer avec lui » ajouta-t-elle en me montrant d'un air soumis. Rosemonde et Gisèle me regardaient, pénétrées pour moi d'un respect nouveau. Je jouissais de sentir que, pour un moment du moins, aux yeux même de Rosemonde et de Gisèle, j'étais pour Albertine quelque chose de plus important que l'heure de rentrée, que ses amis, et pouvait même avoir avec elle de graves secrets auxquels il était impossible qu'on les mêlât. « Est-ce que nous ne te verrons pas ce soir ?»« Je ne sais pas, ça dépendra de celui-ci. En tout cas, à demain. »« Montons dans ma chambre, » lui dis-je, quand ses amis se furent éloignés. Nous prîmes l'ascenseur. Elle garda le silence devant le lift. L'habitude d'être obligée de recourir à l'observation personnelle et à la déduction pour connaître les petites affaires des maîtres, ces gens étranges qui causent entre eux et ne leur parlent pas, développe chez les employés, comme le lift appelle les domestiques, un plus grand pouvoir de divination que chez les patrons. Les organes s'atrophient ou deviennent plus forts ou plus subtils selon que le besoin qu'on a d'eux croît ou diminue. Depuis qu'il existe des chemins de fer, la nécessité de ne pas manquer le train nous a appris à tenir compte des minutes, alors que chez les anciens Romains, dont l'astronomie n'était pas seulement plus sommaire, mais aussi la vie moins pressée, la notion non pas de minutes, mais même d'heures fixes existait à peine. Aussi le lift avait-il compris. Et comptait-il raconter à ses camarades que nous étions préoccupés, Albertine et moi. Mais il nous parlait sans arrêter, parce qu'il n'avait pas de tact. Cependant, je voyais se peindre sur son visage, substitué à l'impression habituelle d'amitié et de joie de me faire monter dans son ascenseur, un air d'appâtement et d'inquiétude extraordinaire. Comme j'en ignorais la cause, pour tâcher de l'en distraire, et quoique plus préoccupé d'Albertine, je lui dis que la dame qui venait de partir s'appelait la marquise de Cambremer, et non de Camembert. À l'étage devant lequel nous posions alors, j'aperçus, portant un traversin, une femme de chambre affreuse qui me salua avec respect, espérant un pourboire au départ. J'aurais voulu savoir si c'était celle que j'avais tant désirée le soir de ma première arrivée à Balbec, mais je ne pus jamais arriver à une certitude. Le lift me jura, avec la sincérité de la plupart des faux témoins, mais sans quitter son air désespéré, que c'était bien sous le nom de Camembert que la marquise lui avait demandé de l'annoncer. Et, à vrai dire, il était bien naturel qu'il eût entendu un nom qu'il connaissait déjà. Puis, ayant sur la noblesse et la nature des noms avec lesquels se font les titres les notions fort vagues qui sont celles de beaucoup de gens qui ne sont pas liftiers, le nom de Camembert lui avait paru d'autant plus vraisemblable que, ce fromage étant universellement connu, il ne fallait point s'étonner qu'on eût tiré un marquisat d'une renommée aussi glorieuse, à moins que ce ne fût celle du marquisat qui eût donné sa célébrité au fromage. Néanmoins, comme il voyait que je ne voulais pas avoir l'air de m'être trompé, et qu'il savait que les maîtres aiment avoir obéi leurs caprices les plus futiles et accepté leurs mensonges les plus évidents, il me promit, en bon domestique, de dire désormais Cambremer. Il est vrai qu'aucun boutiquier de la ville, ni aucun paysan des environs, où le nom et la personne des Cambremer étaient parfaitement connus, n'aurait jamais pu commettre l'erreur du lift. Mais le personnel du grand hôtel de Balbec n'était nullement du pays. Il venait de droite ligne, avec tout le matériel, de Biarritz, Nice et Monte-Carlo. Une partie ayant été dirigée sur Deauville, une autre sur Dinard, et la troisième réservée à Balbec. Mais la douleur anxieuse du lift ne fit que grandir. Pour qu'il oubliât ainsi de me témoigner son dévouement par ses habituels sourires, il fallait qu'il lui fût arrivé quelque malheur. Peut-être avait-il été envoyé. Je me promis dans ce cas de tâcher d'obtenir qu'il restât, le directeur m'ayant promis de ratifier tout ce que je déciderais concernant son personnel. Vous pouvez toujours faire ce que vous voulez, je rectifie d'avance. Tout à coup, comme je venais de quitter l'ascenseur, je compris la détresse, l'air atterré du lift. À cause de la présence d'Albertine, je ne lui avais pas donné les 100 sous que j'avais l'habitude de lui remettre en montant. Et cet imbécile, au lieu de comprendre que je ne voulais pas faire devant des tiers étalage de pourboire, avait commencé à trembler, supposant que c'était fini une fois pour toutes, que je ne lui donnerais plus jamais rien. Il s'imaginait que j'étais tombée dans la dèche, comme eût dit le duc de Guermantes, et sa supposition ne lui inspirait aucune pitié pour moi, mais une terrible déception égoïste. Je me dis que j'étais moins déraisonnable que ne trouvait ma mère quand je n'osais pas ne pas donner un jour la somme exagérée, mais fiévreusement attendue, que j'avais donnée la veille. Mais aussi la signification donnée jusque-là par moi et sans aucun doute à l'air habituel de joie où je n'hésitais pas à voir un signe d'attachement me parut d'un sens moins assuré. En voyant le liftier prêt dans son désespoir à se jeter des 5 étages, je me demandais si, nos conditions sociales se trouvant respectivement changées, du fait par exemple d'une révolution, au lieu de manœuvrer gentiment pour moi l'ascenseur, le lift, devenu bourgeois, ne m'en eût pas précipité. Et s'il n'y a pas, dans certaines classes du peuple, plus de duplicité que dans le monde, où, sans doute, l'on réserve pour notre absence les propos désobligeants, mais où l'attitude à notre égard ne serait pas insultante si nous étions malheureux. On ne peut pourtant pas dire qu'à l'hôtel de Balbec, le lift fut le plus intéressé. À ce point de vue, le personnel se divisait en deux catégories. D'une part, ceux qui faisaient des différences entre les clients, plus sensibles aux pourboires raisonnables d'un vieux noble, d'ailleurs en mesure de leur éviter 28 jours en les recommandant au général de Beautreilly, qu'aux largesses inconsidérées d'un rasta qui décelait par là même un manque d'usage que, seulement devant lui, on appelait de la bonté. D'autre part, ceux pour qui noblesse, intelligence, célébrité, situation, manière étaient inexistantes, recouvertes par un chiffre. Il n'y avait pour cela qu'une hiérarchie, l'argent qu'on a, ou plutôt celui qu'on donne. Peut-être aimé lui-même, bien que prétendant, à cause du grand nombre d'hôtels où il avait servi, à un grand salon mondain, appartenait-il à cette catégorie-là? Tout au plus donnait-il un tour social et de connaissance des familles à ce genre d'appréciation, en disant de la princesse de Luxembourg, par exemple, « Il y a beaucoup d'argent là-dedans ?» Le point d'interrogation étant afin de se renseigner ou de contrôler définitivement les renseignements qu'il avait pris, avant de procurer à un client un « chef » pour Paris, ou de lui assurer une table à gauche, à l'entrée, avec vue sur la mer, à Balbec. Malgré cela, sans être dépourvu d'intérêt, il ne l'eût pas exhibé avec le sceau des espoirs du lift. Au reste, la naïveté de celui-ci simplifiait peut-être les choses. C'est la commodité d'un grand hôtel, d'une maison comme était autrefois celle de Rachel. C'est que, sans intermédiaire, sur la face jusque-là glacée d'un employé ou d'une femme, la vue d'un billet de 100 francs, à plus forte raison de 1000, même donné pour cette fois-là à un autre, amène un sourire et des offres. Au contraire, dans la politique, dans les relations d'amant à maîtresse, il y a trop de choses placées entre l'argent et la docilité. Tant de choses que ceux-là même chez qui l'argent éveille finalement le sourire sont souvent incapables de suivre le processus interne qui les relie. Se croient, sont plus délicats. Et puis cela décante la conversation polie des « je sais ce qu'il me reste à faire, demain on me trouvera à la morgue ». Aussi rencontre-t-on dans la société polie peu de romanciers, de poètes, de tous ces êtres sublimes qui parlent justement de ce qu'il ne faut pas dire. Aussitôt seul et engagé dans le corridor, Albertine me dit « qu'est-ce que vous avez contre moi ?» Ma dureté avec elle m'avait-elle été pénible à moi-même? N'était-elle de ma part qu'une ruse inconsciente se proposant d'amener vis-à-vis de moi mon ami à cette attitude de crainte et de prière qui me permettrait de l'interroger? Et peut-être d'apprendre laquelle des deux hypothèses que je formais depuis longtemps sur elle était la vraie? Toujours est-il que quand j'entendis sa question, je me sentis soudain heureux, comme quelqu'un qui touche à un but longtemps désiré. Avant de lui répondre, je la conduisis jusqu'à ma porte. Celle-ci, en s'ouvrant, fit refluer la lumière rose qui remplissait la chambre et changeait la mousseline blanche des rideaux tendus sur le soir en lampas aurore. J'allai jusqu'à la fenêtre. Les mouettes étaient posées de nouveau sur les flots, mais maintenant elles étaient roses. Je le fis remarquer à Albertine. « Ne détournez pas la conversation, me dit-elle. Soyez franc comme moi. » Je mentis. Je lui déclarai qu'il lui fallait écouter un aveu préalable, celui d'une grande passion que j'avais depuis quelque temps pour André. Et je le lui fis avec une simplicité et une franchise dignes du théâtre, mais qu'on n'a guère dans la vie que pour les amours qu'on ne ressent pas. Reprenant le mensonge dont j'avais usé avec Gilberte avant mon premier séjour à Balbec, mais le variant, j'allais, pour me faire mieux croire d'elle, quand je lui disais maintenant que je ne l'aimais pas, jusqu'à laisser échapper qu'autrefois j'avais été sur le point d'être amoureux d'elle, mais que trop de temps avait passé, qu'elle n'était plus pour moi qu'une bonne camarade, et que, l'eussais-je voulu, il ne m'eût plus été possible d'éprouver de nouveau à son égard des sentiments plus ardents. D'ailleurs, en appuyant ainsi devant Albertine sur ses protestations de froideur pour elle, je ne faisais, à cause d'une circonstance et en vue d'un but particulier, que rendre plus sensible, marquer avec plus de force, ce rythme binaire qu'adopte l'amour chez tous ceux qui doutent trop d'eux-mêmes pour croire qu'une femme puisse jamais les aimer, et aussi qu'eux-mêmes puissent l'aimer véritablement. Ils se connaissent assez pour savoir qu'auprès des plus différentes, ils éprouvaient les mêmes espoirs, les mêmes angoisses, inventaient les mêmes romans, prononçaient les mêmes paroles, pour s'être rendus ainsi compte que leurs sentiments, leurs actions, ne sont pas en rapport étroit et nécessaire avec la femme aimée, mais passent à côté d'elle, l'éclabousse, la circonvienne comme le flux qui se jette le long des rochers. Et le sentiment de leur propre instabilité augmente encore chez eux la défiance que cette femme, dont ils voudraient tant être aimés, ne les aime pas. Pourquoi le hasard aurait-il fait, puisqu'elle n'est qu'un simple accident placé devant le jaillissement de nos désirs, que nous fussions nous-mêmes le but de ce qu'elle a? Aussi, tout en ayant besoin d'épancher vers elle tous ses sentiments, si différents des sentiments simplement humains que notre prochain nous inspire, ces sentiments si spéciaux que sont les sentiments amoureux, après avoir fait un pas en avant, en avouant à celle que nous aimons notre tendresse pour elle, nos espoirs, aussitôt craignant de lui déplaire, confus aussi de sentir que le langage que nous lui avons tenu n'a pas été formé expressément pour elle, qu'il nous a servi, nous servira pour d'autres, que si elle ne nous aime pas, elle ne peut pas nous comprendre, et que nous avons parlé alors avec le manque de goût, l'impudeur du pédant, adressant à des ignorants des phrases subtiles qui ne sont pas pour eux. Cette crainte, cette honte, amène le contre-rythme, le reflux, le besoin, fût-ce en reculant d'abord, en retirant vivement la sympathie précédemment confessée, de reprendre l'offensive et de ressaisir l'estime, la domination. Le rythme double est perceptible dans les diverses périodes d'un même amour, dans toutes les périodes correspondantes d'amour similaire, chez tous les êtres qui s'analysent mieux qu'ils ne se prisent haut. S'il était pourtant un peu plus vigoureusement accentué qu'il n'est d'habitude, dans ce discours que j'étais en train de faire à Albertine, c'était simplement pour me permettre de passer plus vite et plus énergiquement au rythme opposé que scanderait ma tendresse. Comme si Albertine avait dû avoir de la peine à croire ce que je lui disais de mon impossibilité de l'aimer de nouveau, à cause du trop long intervalle, j'étayais ce que j'appelais une bizarrerie de mon caractère, d'exemples tirés de personnes avec qui j'avais, par leur faute ou la mienne, laissé passer l'heure de les aimer, sans pouvoir, quelque désir que j'en eusse, la retrouver après. J'avais ainsi l'air à la fois de m'excuser auprès d'elle, comme d'une impolitesse, de cette incapacité de recommencer à l'aimer, et de chercher à lui en faire comprendre les raisons psychologiques, comme si elles m'eussent été particulières. Mais en m'expliquant de la sorte, en m'étendant sur le cas de Gilberte, vis-à-vis de laquelle, en effet, avait été rigoureusement vrai ce qui le devenait si peu appliqué à Albertine, je ne faisais que rendre mes assertions aussi plausibles que je feignais de croire qu'elles le fussent peu. Sentant qu'Albertine appréciait ce qu'elle croyait mon franc-parler et reconnaissait dans mes déductions la clarté de l'évidence, je m'excusais du premier, lui disant que je savais bien qu'on déplaisait toujours en disant la vérité, et que celle-ci, d'ailleurs, devait lui paraître incompréhensible. Elle me remercia, au contraire, de ma sincérité, et ajouta qu'au surplus, elle comprenait à merveille un état d'esprit si fréquent et si naturel. Cet aveu fait à Albertine d'un sentiment imaginaire pour André, et pour elle-même d'une indifférence, que, pour paraître tout à fait sincère et sans exagération, je lui assurais incidemment, comme par un scrupule de politesse, ne pas devoir être prise trop à la lettre. Je pus enfin, sans crainte qu'Albertine y soupçonnât de l'amour, lui parler avec une douceur que je me refusais depuis si longtemps et qui me parut délicieuse. Je caressais presque ma confidente. En lui parlant de son amie que j'aimais, les larmes me venaient aux yeux. Mais, venant au fait, je lui dis enfin qu'elle savait ce qu'était l'amour, ses susceptibilités, ses souffrances, et que, peut-être, en amie déjà ancienne pour moi, elle aurait à cœur de faire cesser les grands chagrins qu'elle me causait. Non directement, puisque ce n'était pas elle que j'aimais, si j'osais le redire sans la froisser, mais indirectement, en m'atteignant dans mon amour pour André. Je m'interrompis pour regarder et montrer à Albertine un grand oiseau solitaire et hâtif qui, loin de nous, fouettant l'air du battement régulier de ses ailes, passait à toute vitesse au-dessus de la plage, taché çà et là de reflets pareils à des petits morceaux de papier rouge déchirés, et la traversait dans toute sa longueur, sans ralentir son allure, sans détourner son attention, sans dévier de son chemin, comme un émissaire qui va porter bien loin un message urgent et capital. « Lui, du moins, va droit au but !» me dit Albertine d'un air de reproche. « Vous me dites cela parce que vous ne savez pas ce que j'aurais voulu vous dire, mais c'est tellement difficile que j'aime mieux y renoncer. Je suis certain que je vous fâcherai. Alors, cela n'aboutira qu'à ceci. Je ne serai en rien plus heureux avec celle que j'aime d'amour et j'aurai perdu une bonne camarade. » « Mais puisque je vous jure que je ne me fâcherai pas !» Elle avait l'air si doux, si tristement docile, et d'attendre de moi son bonheur, que j'avais peine à me contenir et à ne pas embrasser, presque avec le même genre de plaisir que j'aurais eu à embrasser ma mère, ce visage nouveau, qui n'offrait plus la mine éveillée et rougissante d'une chatte mutine et perverse au petit nez rose élevé. Mais semblait dans la plénitude de sa tristesse accablée, fondue, à larges coulées aplaties et retombantes, dans de la bonté. Faisant abstraction de mon amour, comme d'une folie chronique sans rapport avec elle, me mettant à sa place, je m'attendrissais devant cette brave fille, habituée à ce qu'on eût pour elle des procédés aimables et loyaux, et que le bon camarade qu'elle avait pu croire que j'étais pour elle poursuivait, depuis des semaines, de persécutions qui étaient enfin arrivées à leur point culminant. C'est parce que je me plaçais à un point de vue purement humain, extérieur à nous deux, et d'où mon amour jaloux s'évanouissait, que j'éprouvais pour Albertine cette pitié profonde, qu'il eût moins été si je ne l'avais pas aimée. Du reste, dans cette oscillation rythmée qui va de la déclaration à la brouille, le plus sûr moyen, le plus efficacement dangereux pour former, par mouvements opposés et successifs, un nœud qui ne se délasse pas et nous attache solidement à une personne, au sein du mouvement de retrait qui constitue l'un des deux éléments du rythme, à quoi bon distinguer encore les reflux de la pitié humaine, qui, opposés à l'amour, quoiqu'ayant peut-être inconsciemment la même cause, produisent en tout cas les mêmes effets. En se rappelant plus tard le total de tout ce qu'on a fait pour une femme, on se rend compte souvent que les actes inspirés par le désir de montrer qu'on aime, de se faire aimer, de gagner des faveurs, ne tiennent guère plus de place que ceux dus au besoin humain de réparer les torts envers l'être qu'on aime, par simple devoir moral, comme si on ne l'aimait pas. « Mais enfin, qu'est-ce que j'ai pu faire ?» me demanda Albertine. On frappa. C'était le lift. La tante d'Albertine, qui passait devant l'hôtel en voiture, s'était arrêtée à tout hasard pour voir si elle n'y était pas et la ramener. Albertine fit répondre qu'elle ne pouvait pas descendre, qu'on dîna sans l'attendre, qu'elle ne savait pas à quelle heure elle rentrerait. « Mais votre tante sera fâchée !»« Pensez-vous, elle comprendra très bien. » Ainsi donc, en ce moment du moins, tel qu'il n'en reviendrait peut-être pas, un entretien avec moi se trouvait, par suite des circonstances, être aux yeux d'Albertine une chose d'une importance si évidente qu'on dut le faire passer avant tout, et à laquelle, se reportant sans doute instinctivement à une jurisprudence familiale, énumérant telle conjecture, ou, quand la carrière de M. Bontemps était en jeu, on n'avait pas regardé à un voyage, mon ami ne doutait pas que sa tante trouvât tout naturel de voir sacrifier l'heure du dîner. Cette heure lointaine qu'elle passait sans moi, chez les siens, Albertine l'ayant fait glisser jusqu'à moi, me la donnait. J'en pouvais user à ma guise. Je finis par oser lui dire ce qu'on m'avait raconté de son genre de vie, et que, malgré le profond dégoût que m'inspiraient les femmes atteintes du même vice, je ne m'en étais pas souciée jusqu'à ce qu'on m'eût nommé sa complice, et qu'elle pouvait comprendre facilement, au point où j'aimais André, quelle douleur j'en avais ressenti. Il eût peut-être été plus habile de dire qu'on m'avait cité aussi d'autres femmes, mais qui m'étaient indifférentes. Mais la brusque et terrible révélation que m'avait faite Cottard était entrée en moi me déchirer, telle qu'elle, tout entière, mais sans plus. Et de même qu'auparavant, je n'aurais jamais eu de moi-même l'idée qu'Albertine aimait André, ou du moins put avoir des jeux caressants avec elle, si Cottard ne m'avait pas fait remarquer leur pose en valsant. De même, je n'avais pas su passer de cette idée à celle, pour moi tellement différente, qu'Albertine put avoir avec d'autres femmes qu'André, des relations dont l'affection n'eût même pas été l'excuse. Albertine, avant même de me jurer que ce n'était pas vrai, manifesta, comme toute personne à qui on vient d'apprendre qu'on a ainsi parlé d'elle, de la colère, du chagrin et, à l'endroit du calomniateur inconnu, la curiosité rageuse de savoir qui il était et le désir d'être confronté avec lui pour pouvoir le confondre. Mais elle m'assura qu'à moi du moins, elle n'en voulait pas. « Si cela avait été vrai, je vous l'aurais avoué. Mais André et moi, nous avons aussi horreur l'une que l'autre de ces choses-là. Nous ne sommes pas arrivés à notre âge sans voir des femmes aux cheveux courts, qui ont des manières d'homme et le genre que vous dites. Et rien ne nous révolte autant. » Albertine ne me donnait que sa parole, une parole péremptoire et non appuyée de preuves. Mais c'est justement ce qui pouvait le mieux me calmer, la jalousie appartenant à cette famille de doutes maladifs que lève bien plus l'énergie d'une affirmation que sa vraisemblance. C'est d'ailleurs le propre de l'amour de nous rendre à la fois plus défiants et plus crédules, de nous faire soupçonner, plus vite que nous n'aurions fait une autre, celle que nous aimons, et d'ajouter foi plus aisément à ces dénégations. Il faut aimer pour prendre souci qu'il n'y ait pas que des honnêtes femmes, autant dire pour s'en aviser. Et il faut aimer aussi pour souhaiter, c'est-à-dire pour s'assurer qu'il y en a. Il est humain de chercher la douleur et aussitôt à s'en délivrer. Les propositions qui sont capables d'y réussir nous semblent facilement vraies. On ne chicane pas beaucoup sur un calmant qui agit. Et puis, si multiple que soit l'être que nous aimons, il peut en tout cas nous présenter deux personnalités essentielles, selon qu'il nous apparaît comme nôtre ou comme tournant ses désirs ailleurs que vers nous. La première de ces personnalités possède la puissance particulière qui nous empêche de croire à la réalité de la seconde. Le secret spécifique pour apaiser les souffrances que cette dernière a causées. L'être aimé est successivement le mal et le remède qui suspend et aggrave le mal. Sans doute j'avais été depuis longtemps, par la puissance qu'exerçait sur mon imagination et ma faculté d'être émue, l'exemple de Swann. Préparé à croire vrai ce que je craignais au lieu de ce que j'aurais souhaité. Aussi, la douleur apportée par les affirmations d'Albertine faillit-elle en être compromise un moment parce que je me rappelais l'histoire d'Odette. Mais je me dis que, s'il était juste de faire sa part au pire, non seulement quand, pour comprendre les souffrances de Swann, j'avais essayé de me mettre à la place de celui-ci, mais maintenant qu'il s'agissait de moi-même, en cherchant la vérité comme s'il se fût agi d'un autre, il ne fallait cependant pas que, par cruauté pour moi-même, soldat qui choisit le poste, non pas où il peut être le plus utile, mais où il est le plus exposé, j'aboutisse à l'erreur de tenir une supposition pour plus vraie que les autres, à cause de cela seul qu'elle était la plus douloureuse. N'y avait-il pas un abîme entre Albertine, jeune fille d'assez bonne famille bourgeoise, et Odette, cocotte vendue par sa mère dès son enfance? La parole de l'une ne pouvait être mise en comparaison avec celle de l'autre. D'ailleurs, Albertine n'avait en rien à me mentir le même intérêt qu'Odette à Swann. Et encore, à celui-ci, Odette avait avoué ce qu'Albertine venait de nier. J'aurais donc commis une faute de raisonnement aussi grave, quoique inverse, que celle qui m'eût inclinée vers une hypothèse parce que celle-ci m'eût fait moins souffrir que les autres, en ne tenant pas compte de ces différences de faits dans les situations et en reconstituant la vie réelle de mon amie uniquement d'après ce que j'avais appris de celle d'Odette. J'avais devant moi une nouvelle Albertine, déjà entrevue plusieurs fois, il est vrai, vers la fin de mon premier séjour à Balbec. Franche, bonne, une Albertine qui venait, par affection pour moi, de me pardonner mes soupçons et de tâcher à les dissiper. Elle me fit asseoir à côté d'elle sur mon lit. Je la remerciais de ce qu'elle m'avait dit, je l'assurais que notre réconciliation était faite et que je ne serais plus jamais dure avec elle. Je dis à Albertine qu'elle devrait tout de même rentrer dîner. Elle me demanda si je n'étais pas bien comme cela, et attirant ma tête pour une caresse qu'elle ne m'avait encore jamais faite et que je devais peut-être à notre brouille finie, elle passa légèrement sa langue sur mes lèvres, qu'elle essayait d'entr'ouvrir. Pour commencer, je ne les desserrai pas. « Quel grand méchant vous faites !» me dit-elle.